Je vais vous inviter à prier. Priez avec moi. Prier, c'est parler à Dieu. Parfois, les gens se compliquent avec la prière. Faites-nous des cours de prière. Avez-vous des prières? Demandez et vous recevrez. Demandez à Dieu. Je vous invite à vous lever. Vous m'entendez bien? Ça va? Pas trop? Je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es venu de la part de Dieu, notre Père, pour nous dire, venez, tout est prêt. Nous voulons te suivre, entendre ta voix, nous réconforter tout près de toi, entendre des paroles qui ne sont pas montées dans notre cœur, des paroles nouvelles, des paroles de Dieu. Bénis cette conférence, cette méditation, nos âmes, touche nos maladies, nos solitudes, nos enfants, nos détresses, nos joies. Reste avec nous, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ça va? Il n'y a pas trop d'écho? J'ai intitulé ma conférence « Croire en temps d'incertitude ». C'est bizarre quand même. Quand rien n'est certain, c'est là qu'il faut croire. Et j'aimerais lire avec vous une histoire de l'Évangile. Marc, Évangile de Marc, chapitre 5. Si vous avez la Bible, vous ouvrez, sinon vous écoutez. La Bible, ça s'écoute d'abord. Parce que l'enfant, il écoute même s'il ne sait pas lire. Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant de prière, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Bon, petite pause de quelques secondes, parce que là, Jésus le suit, mais il va être dérangé parce qu'une femme malade va toucher son vêtement en disant « Seigneur, sauve-moi, guéris-moi », alors il va perdre du temps. Bon, on se dépêche, on le retrouve au verset 35. « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient, qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, Pierre, Jacques et Jean, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. La foi dans les temps d'incertitude. Nous sommes dans un temps d'incertitude actuellement. Il y a un ralentissement de l'économie. Il y a une baisse des mentalités. Il y a de la peur de la guerre, du terrorisme, une méfiance dans l'avenir. Et Jésus dit dans l'Évangile que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a un temps d'incertitude aujourd'hui. Dans la famille aussi. Incertitude dans l'avenir des enfants. Incertitude parce qu'il y a la maladie chez la maman ou le papa. Mais Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Alors revenons à notre histoire quelques minutes. Une grande foule suit Jésus. Elle le presse, elle le touche, il ne peut pas avancer, hein. Il est bloqué par la foule. Mais qui attire cette foule? Ce n'est pas un spectacle, son et lumière. C'est le plus grand de tous, le plus grand des prophètes, plus grand que Salomon dans ses beaux vêtements, plus grand que Jonas dans son poisson, plus qu'un prophète. C'est Dieu qui visite le monde. C'est un grand homme, pas grand par sa beauté, par sa taille, par sa force, mais par son âme, par ce qu'il fait, par ce qu'il dit. Il bouleverse des foules. Tout homme, toute femme qui l'entend ne peut pas rester insensible, à moins de verrouiller son cœur. Eh bien, il va passer dans cette région et, malgré la foule, peut-être des centaines, des milliers, deux personnes vont recevoir de lui une grâce, une puissance. Une petite jeune fille de 12 ans et une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans, justement. Deux personnes vont recevoir une petite fille et une femme. On voit bien que Jésus s'occupe de tout le monde, des enfants, des adultes. Il s'occupe de personne. Chaque besoin est important pour Jésus. Il est venu pour s'occuper de nous personnellement. Ce n'est pas la foule qu'il voit, c'est chacun, chaque cœur, chaque situation. Et dans toute cette foule, voilà, il y a un homme qui va être poussé vers Jésus. Jaïrus, chef de synagogue, magistrat, un homme érudit. Il n'est pas attiré par Jésus. Certainement, comme beaucoup aujourd'hui, par l'indifférence, par le repli sur soi, par l'hostilité aussi. Il y en a qui n'aiment pas Jésus. Cet homme, il n'est pas attiré, mais quelque chose va le pousser vers Jésus. Alors, il est marié, il a une femme, donc, une femme et une petite fille. Mais voilà que la mort est passée, passe dans la maison, et devant la mort, on est démuni, on est seul. On n'a pas de parole, on n'a pas de réponse, on n'a pas de remède, on n'a rien, rien. Et la mort est passée dans cette maison, et voilà que cet homme va bouger. Peut-être qu'il a pensé pendant des années qu'il faut rester dans sa religion, il ne faut pas changer de religion, il faut rester juif, on est juif, on restera juif jusqu'au bout, on ne change pas. Mais c'est plus qu'une religion. Il y a Jésus qui nous appelle à la vie éternelle, qui nous attire. Et Jaïrus va être attiré, c'est une vocation. Quand je serai élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Et actuellement, il attire des gens à lui. Mais il y a aussi une force qui pousse. Voyez-vous, Jaïrus, il est attiré, mais il est aussi poussé. Qui pousse Jaïrus vers Jésus? La détresse la mort, la maladie de son enfant, l'incertitude sur l'avenir de cette petite gamine de 12 ans. Regardez ces deux forces, la miséricorde du Christ qui nous attire, c'est magnifique, et la misère du monde qui nous pousse. On est en marche vers Jésus. Jaïrus est poussé par un chagrin qui le soulève comme une vague de fond. Imaginez perdre sa petite fille de 12 ans. Il y a de quoi se jeter la tête contre les murs. Que faut-il faire? Il est poussé par cette détresse, par ce grand chagrin. Et il a entendu parler de Jésus, comme vous. Il a la foi dans la réputation de Jésus. Il sait qu'il se passe des choses avec Jésus. Alors, il arrive et il va lui jeter un appel déchirant à Jésus. « Ma petite fille est à l'extrémité. » Terrible comme parole. Ça me fait froid dans le dos. À l'extrémité. Elle va mourir dans quelques secondes. Elle est au bout du rouleau. Pardonnez-moi l'expression, je ne l'aime pas. Je n'aime pas dire bout du rouleau. Il va montrer sa foi. La foi de Jaïrus, c'est qu'il se jette aux pieds de Jésus. Il est désarmé. Il est dépendant de Jésus. Il est petit devant Jésus. Il est à l'écoute de Jésus. Il est en attente de Jésus. C'est ça la foi. Seigneur, je ne peux plus rien. Seigneur, je ne sais plus quoi penser. Il se jette aux pieds de Jésus. Ça, c'est la foi. Et la foi, c'est savoir que le Christ a le pouvoir de guérir, de ressusciter et de sauver pour la vie éternelle, là-haut. C'est tout ça, la foi. Et Jaïrus va faire cette prière, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens vite, impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Et cette prière va toucher le cœur de Jésus. Cette prière, c'est une conversation, ce n'est pas des mots que l'on apprend par cœur, c'est le cri du cœur, c'est une confession, c'est une confiance, c'est un appel au secours. « Viens vite, elle va mourir. » Viens. La foi fait descendre Jésus chez nous. La foi, c'est donner une place à Jésus dans notre maison, dans notre vie. Et Jésus s'en alla avec lui. Il n'a pas dit « tu ne m'intéresses pas, j'ai autre chose à faire ». Il s'en alla avec lui pour s'occuper de un cas, une petite fille de 12 ans. La foi, malgré l'obstacle, parce qu'il va y avoir un obstacle, une femme va l'arrêter, je vous l'ai dit, elle va lui prendre du temps, elle va être guérie, elle va parler dans la rue, tout le monde va s'arrêter pendant plusieurs minutes et le convoi ne bouge plus. Et pendant ce temps-là, la petite fille, elle va mourir. J'ai déjà vu des enfants morts. Oh là là, je ne peux plus supporter. Même quand je vois le petit Grégory à la télévision, j'ai envie de m'écrouler en larmes. Ce petit Grégory, 4 ans ou 5 ans. Alors, elle est décédée, la petite, et Jésus se remet en route pour aller avec Jaïrus. Il l'avait promis, il le suit. Et voici qu'en partant vers la maison de Jaïrus, il y a quelqu'un qui vient, pas très raffiné, pas très doué quand même. Il dit devant tout le monde, « Ta fille est morte. » C'est pas délicat. C'est quand même dur parfois de parler de la mort dans les bons termes, avec les mots justes. « Ta fille est morte. » Alors évidemment, Jaïrus s'effondre. Peut-être a-t-il appelé Jésus trop tard. Il aurait dû s'y prendre plus tôt. La mort est plus rapide que nous. C'est vrai qu'on peut être trop tard. La Bible dit que personne ne vienne trop tard. Que personne ne pense à se convertir trop tard. Parce qu'un jour, on ne pourra plus. Quand on n'aura plus sa conscience, du souffle, C'est aujourd'hui le jour du salut. Enfin, elle est morte. La mort était rapide. Et quand la mort est là, il n'y a plus de repères. Nous ne savons plus rien. On imagine, bien sûr, on imagine. On imagine, mais devant la mort, il n'y a pas de repères. Nous n'avons pas aucune vision. On ne voit rien, on n'entend rien. On ne peut plus toucher, on ne peut plus contacter. On ne peut rien faire. On a simplement que la foi dans Jésus présent en haut et en bas, chez les morts et chez les vivants, mais pour lui, tout le monde est vivant. Jésus sait que ce papa est inconsolable, il comprend la douleur de ce père et par le départ de cette petite fille, et il va réconforter la foi de cet homme. Il ne va pas expliquer la mort, il ne va pas expliquer l'au-delà, comment ça se passe là-haut, et la résurrection, etc., etc. Il ne va pas expliquer, mais il va réconforter, sans rien expliquer, crois seulement. Comme si le fait de croire, ça apaisait, ça rassurait, ça donnait du confort, réconfort. Jésus, en entendant cet homme qui vient maladroit, pas fin, un peu vulgaire, « ta fille est morte !» Jésus ne tient pas compte de ses paroles. Il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Il ne tient pas compte de ses paroles. Et il dit à Jaïrus, crois seulement, ça veut dire continue de croire. Crois seulement, continue. Tu m'as dit, impose-lui les mains et il vivra, continue de croire. Tu m'as dit que je vienne pour qu'elle vive, continue de croire. Ne bouge pas d'un millimètre dans ta confiance. Continue. C'est ça la confiance. Alors évidemment, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut écouter sa douleur, qui est déchirante, ma fille est morte? Ou est-ce qu'il faut écouter seulement ce murmure de Jésus, qui est comme un fil d'araignée? D'un côté, il y a la mort, le monstre qui ravage nos maisons, nos pays. Puis d'autre côté, il y a Jésus, tout petit, avec ce fil si ténu, ne crains pas, crois seulement. Que faut-il croire? Sa douleur ou Jésus? L'histoire va le montrer. Hein. Alors, il arrive à la maison de Jaïrus. Oh là là, il y a un vacarme. Il se débarrasse de la foule d'abord qui le presse, qui le retient, qui touche ses vêtements. Et il prend avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres témoins. Il faut que des gens, au moins trois, voient ce que le Christ va faire pour le dire aux gens de Rennes aujourd'hui. Et puis, il va se débarrasser dans la maison des pleureuses professionnelles. En ce temps-là, dans un deuil, on payait des gens pour pleurer. C'était des pleureuses. Il se débarrasse de ces gens qui font un peu de cinéma, un peu trop. Et puis, ces gens-là crient très fort, comme si en criant fort, les choses allaient changer. Il se débarrasse de tous ces gens. Et puis, il y a des joueurs de flûte qui font beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Il se débarrasse de ces gens. Autrement dit, il va leur dire « arrêtez de faire du bruit ». Quand on veut demander « Seigneur, aie compassion de moi, Seigneur, guéris-moi », il faut le demander dans la paix. Il faut arrêter d'écouter peut-être la musique, bien sûr, arrêter d'écouter Internet, mais aussi arrêter d'écouter nos pensées. Parce que ce qui parle le plus fort en nous, ce n'est pas forcément la musique, ce sont nos pensées. Quand on ne dort pas, ce sont nos pensées qui s'agitent comme les feuilles de la forêt. Il faut du silence. Il faut arrêter les pensées de mort, de découragement, les pensées de suicide. Il faut arrêter toutes ces pensées d'inquiétude, de suffocation, tout ce qui bouscule, s'agite en nous comme les joueurs de flûte et les pleureuses professionnelles. Il faut arrêter ça pour écouter simplement la parole apaisante, réconfortante de Jésus qui donne la foi. Parole qui donne la foi. Elle communique la foi. Il faut que la porte soit ouverte, la porte du cœur. Mais écouter Jésus, ça donne la foi. Regardez, dans la mort, c'est la plus grande incertitude pour l'être humain. Nous ne connaissons pas. Les scientifiques ne peuvent rien expliquer. Les philosophes sont incapables de rien expliquer. La mort qui est la plus grande incertitude, Jésus nous donne une parole qui est la plus grande certitude. C'est beau ? C'est beau ? Jésus disait, « Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. » On s'est moqué de lui, et peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui se cramponne à sa chaise pour ne pas se moquer de moi. Jésus dit, je répète, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. » Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? On ne meurt pas. On meurt ? Non. On passe dans la maison de Dieu. On entre dans la maison de Dieu. Et on entre dans cette maison sans voir des choses terribles, mauvaises, effrayantes, écrasantes. On entre dans un monde de bonheur, de joie et de paix dans le cœur de Dieu. C'est ça, passer dans le cœur du Seigneur. Alors tout le monde est parti. Et Jésus a dit une parole, peut-être que c'est une des paroles les plus simples, c'est une image la plus simple sur la mort. On ne peut pas faire plus simple, mais Jésus est très simple. Pourquoi pleurez-vous ? Ça sert à quoi de pleurer ? Quand même, Seigneur, on a perdu une petite fille de 12 ans. L'enfant n'est pas morte, vous savez la suite, mais elle dort. Jésus n'explique pas le mystère de l'au-delà, mais il nous rassure sur ce que nous voyons. L'enfant là, elle dort, elle ne fait que de dormir. Alors évidemment, moquerie, les gens ont bien rigolé sur Jésus, parce qu'on interprète mal, on ne réfléchit pas. Attention, la mort de cet enfant, c'est une mort véritable. Ce n'est pas un sommeil, elle n'a pas été, elle n'est pas dans le coma. C'est une mort véritable, elle est morte. Mais quand la mort dure une heure, pour Jésus, c'est un sommeil. Et quand la mort dure six mois, quand Jésus met un terme à la mort, c'est un sommeil. Et quand la mort dure 300 ans, il y a un terme et Jésus dit, c'est comme un sommeil. Elle dort, ça veut dire on peut la réveiller. Qui peut la réveiller ? Jésus peut la réveiller. Jésus va réveiller ma vie un jour. Et cette petite fille, et vous. Par son pouvoir qu'il a sur la mort. Son autorité qui donne la vie. Elle dort, quelqu'un va la réveiller, c'est Jésus. Là, voyez-vous, la mort aujourd'hui, c'est le jouet de toutes les imaginations. On imagine tellement de choses. Oh, on ne sait pas, personne ne peut savoir, sauf ce que Jésus en dit, puisqu'il est revenu et des centaines de gens l'ont vu. On mangeait avec lui, on bu avec lui alors qu'il était ressuscité. Donc, seul Jésus donne une parole certaine. Arrêtons les imaginations. Notre seule lampe dans l'obscurité du deuil, c'est la seule lampe en attendant la résurrection de Jésus. Là, on est avant Pâques. La seule lampe, c'est l'enfant dort, mais je vais la réveiller. Comment il va faire? Le père avait dit, viens vite, impose-lui les mains. Jésus a dit, non, je vais lui parler. Et dans la langue de Jésus, l'araméen, Talita Kumi, vous ne comprenez pas l'araméen, ça veut dire, jeune fille, hop, debout, lève-toi. Une parole suffit pour transmettre la vie. Vous avez bien entendu? La parole de l'Évangile suffit pour vous donner un courage, une paix, la foi, la confiance. Si vous lisez l'Évangile, il y a quelque chose qui passera en vous. Il s'adresse à la petite, il ne s'adresse pas au mur. Jeune fille, elle était couchée par terre, peut-être sur une natte ou sur un lit. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Elle a entendu, la jeune fille qui n'entend plus la voix de sa maman qui pleure. Que ça pleure quand même. Elle n'entend plus la voix de son papa, elle n'entend plus rien. Mais elle a entendu là où elle est, je ne sais pas, dans le monde de Dieu, elle a entendu le Christ qui lui parlait. Lève-toi, jeune fille, lève-toi, jeune fille. Magnifique parole du Seigneur. La petite fille revient à la vie. Et Jésus dit, chut, n'en parlez à personne. Seigneur, on a envie de le dire à tout le monde. Chut, tais-toi, taisez-vous, gardez ça pour vous. Parce qu'il ne faut pas que la résurrection de cette petite fille, eh bien, masque un autre événement, plus grand, beaucoup plus grand, la résurrection de Jésus-Christ. Et notre résurrection. Parce que le plus grand événement, ce n'est pas la résurrection de la petite fille, c'est la mort de Jésus pour nous, et la résurrection de Jésus et notre résurrection avec lui. Un détail, j'aime beaucoup Jésus, je le connais un peu. Il a dit aux parents, donnez-lui à manger. Elle a faim, regardez. Ils étaient tous contents, donnez-lui à manger. Il s'occupe des détails, il s'occupe des petites choses. Il regarde l'enfant, elle a le ventre creux, elle est malade depuis peut-être quelques jours ou quelques semaines. Donnez-lui à manger, faites la fête ensemble. Je conclue en vous disant, ça c'est un petit peu Pâques qui approche, hein. Pâques approche, la résurrection d'une petite fille. Mais la résurrection, ce n'est pas la prolongation de ce vieux monde. Bien sûr, j'aurais aimé garder avec moi ma sœur, qu'elle ne meure pas, qu'elle revienne. Mais la résurrection, ce n'est pas notre vieux monde qui va se prolonger. Un monde replâtré, rafistolé, recollé, réanimé. La résurrection, c'est un monde nouveau qui entre dans nos vies. Un monde impérissable, un corps impérissable. Vous n'avez pas quelques douleurs par hasard, et ça ne va pas s'arranger. Mais un jour, nous aurons un corps qui ne s'usera pas. Les années passeront, les siècles passeront, et nous serons toujours aussi jeunes et aussi beaux et aussi forts, parce que la résurrection, c'est un monde qui surgit. Toutes choses deviennent nouvelles. Que le Seigneur vous aide. Amen. Que le Seigneur vous aide à écouter Talita Kumi, jeune fille, debout, lève-toi, à écouter cette voix qui vraiment, dans ma 17e année, m'a mis en route. Et ça n'arrête pas. Que cette voix de Jésus, qu'elle prenne place dans votre esprit pour que vous vous mettiez à la suivre jusqu'à votre dernier jour. Non, il n'y a pas de dernier jour, messieurs, dames, non. Quand on écoute la voix de Jésus, quand on l'écoute, eh bien, on marche sans cesse et on reste avec le Seigneur sans cesse, sans fin, toujours. Je pense à nos défunts, à ceux qui sont déjà partis trop tôt. On part toujours trop tôt. C'est rien. Sur terre, ça passe si vite. Mais ils continuent, ils marchent, ils sont avec Jésus. Je prie le Seigneur pour vous. Beaucoup d'incertitudes dans le monde, mes amis. Une certitude, nous sommes aimés par Dieu et appelés par Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur, pour que notre vie ne se résume pas à manger, à boire, à dormir, à souffrir, à mourir. Non. Donne-nous la foi dans ce que tu fais, dans ce que tu feras, dans une présence qui transforme l'humain pour toujours. Merci pour la certitude que tu as donnée à Jaïrus. Merci pour la foi que tu sais donner aux hommes de notre temps qui sont déboussolés, qui se demandent où nous allons, ce que nous ferons demain. Donne-nous la foi dans ta présence au milieu de nos familles, au cœur de nos santé ou de nos maladies. Donne-nous la foi, Seigneur. Amen. Restons quelques instants devant le Seigneur. On se pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? C'est un temps, les plus anciens nous le diront mieux que moi, un temps qui n'est pas comme les autres. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Et puis cette petite fille là, de 12 ans qui était là, entourée de larmes et de cris, et de détresse, son retour à la vie nous dit... Il y a encore de l'espoir. On n'est pas comme des animaux abandonnés, quoiqu'ils ne sont pas abandonnés, les animaux. On a quelqu'un qui s'occupe de nous. On reste quelques instants dans le silence et dans la paix de nos cœurs et de ce lieu qui se prête bien à la méditation. Et j'aimerais prier pour vous. Si parmi nous, il y avait quelqu'un qui avait peut-être une petite fille malade ou un grand-fils, quelqu'un dont la santé est chancelante, dont le moral n'est pas beau, dont l'espérance est malade, dont l'avenir est incertain, quelqu'un qui dit « j'ai tout perdu ». La mort est préférable à la vie. Il y a des gens qui pensent comme ça, et on les comprend. Mais si quelqu'un a toutes ces pensées qui s'agitent comme les pleureuses professionnelles, eh bien, je vous demande de vous lever à votre place afin que je prie pour vous. Et de tout mon cœur, je vais dire, Seigneur, dis-nous à chacun, Talita Kumi, lève-toi, relève-toi. Relève ta tête, continue, ne crains pas, crois seulement. Qui désire que je prie pour lui ou pour elle? Et Dieu vous voit vous lever, attention. On ne fait pas un geste sans que Dieu le voit. Dieu ne joue pas avec nous et nous, on essaie de ne pas jouer avec Dieu. C'est du sérieux, c'est du vrai. Et si quelqu'un se lève, vous êtes levés mes amis, eh bien, croyez que Dieu vous voit et que tous vos problèmes, il les connaît. Et je prie pour vous. Je te prie, Seigneur, pour ces amis qui se sont levés, pour te faire signe, pour te dire, viens chez moi aussi, Seigneur, dans mon esprit, dans ma maison. Viens dans ma solitude, viens dans ma souffrance. Dans mon inquiétude, viens dans cette maison, un peu comme la maison de Jaïrus, où tout va mal. Mets tes mains sur moi et relève-moi dans ma santé, dans mon cœur, dans ma famille. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de famille. Il y a une enfant, il y a des enfants chez vous, des petits-enfants. Viens chez moi, Seigneur. Voilà ce que nous disons. Et relève-nous, et console-nous, et donne du sens à notre vie. Merci pour ta présence et ta parole, par Jésus-Christ. Amen.